Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Comment photographier la nature? Comment la photographier d'une manière artistique et scientifique en même temps? Comment des artistes, et notamment les photographes, ont accompagné ou nourri par leurs approches multiples, leur regard subjectif, les progrès scientifiques? Le laboratoire de la nature, l'expo dont il est question ce matin, a lieu en ce moment, et ce jusqu'au 21 avril au Frénois. Le studio national des arts contemporains situé à la frontière de Roubaix et de Tourcoing. Et cette expo répond à la question du jour. Et pour nous en parler, pour répondre plutôt à cette question, Pascal Prenier, qui est la commissaire de cette exposition, est une des artistes. Ils sont 11 à participer à cette exposition. Anna Katharina Scheidegger. Le réveil culturel, c'est tous les matins à la radio ou en podcast quand vous voulez. Cette émission a été préparée activement avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son, Philippe Mercher.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Bonjour Anna Katharina Scheidegger, bonjour Pascal Prenier, vous êtes la commissaire de cette exposition, une nouvelle exposition au Frénois qui mêle art et science. Et une des qualités de cette exposition, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'elle rend hommage à un photographe qui était un homme de science, très important, que je ne connaissais pas, je dois avouer mon inculture dans ce domaine. Il s'agit de Henry Fox Talbot. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors Henry Fox Talbot, c'est à la fois un homme qui, c'est un homme du 19e siècle, mais c'est aussi quelqu'un qui a une activité pluridisciplinaire et avant tout c'est un grand scientifique. Il est membre de la Royal Astronomy, il est grand mathématicien, biologiste, c'est quelqu'un qui ne savait pas dessiner. Et donc, il a inventé la photographie, c'est-à-dire la photographie sur papier, c'est-à-dire la photographie moderne, hein, contrairement à nos photographes français comme Daguerre ou Nadar, qui travaillaient sur des plaques de métal. Lui, il est effectivement dans l'idée de la reproduction, donc ça c'est une idée moderne. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une approche de la photographie, mais d'un point de vue transversal et artistique. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans Talbot, c'est que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'artistes contemporains qui lui rendaient hommage. Et donc, l'idée est venue, effectivement, à travers le regard de ces artistes, de rendre hommage à Talbot.
Avec cette question, qu'aurait fait Talbot aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, je pense.
C'est ce que vous avez demandé aux artistes que vous avez choisis.
Effectivement, j'ai plutôt, mis en avant le regard multiple des artistes contemporains sur le travail de Talbot, puisque c'est un artiste pluridisciplinaire, on peut tirer plusieurs fils. Et puis, ça c'est un aspect de l'exposition qui est important, c'est le point de départ.
L'hommage à Talbot, donc.
Voilà, et le second point, c'est aussi le regard occidental que ont ces chercheurs et ces artistes sur la nature. Parce que à l'époque de Talbot, c'est la naissance des grands musées d'histoire naturelle, c'est l'idée de la classification, ce qu'on appelle la taxinomie. Et donc, c'est effectivement une approche qui va nous donner un regard, on peut le dire, une forme de supériorité de l'homme sur l'animal.
En quoi l'approche de Talbot était tout à la fois artistique et scientifique?
Mais c'est pas du tout incompatible, hein. Je veux dire, si on pense à Léonard de Vinci,
c'est... Absolument, mais c'était voulu pour Léonard de Vinci. Est-ce qu'il s'est engagé dans la photo répondre à un désir de partager la science, c'est-à-dire point de vue?
Alors, ce qui est très moderne chez Talbot, c'est qu'il y a une visualisation du processus. On n'a pas une image finie, si vous prenez une image de par exemple de Nadar ou de c'est les portraits, c'est-à-dire c'est plus une image de société, tandis que quelqu'un comme Talbot, c'est quelqu'un qui va nous montrer le rapport au mouvement et à la nature, c'est-à-dire le processus du temps. Donc c'est aussi c'est une image qui est non terminée, si je puis dire. Donc c'est pour ça, je pense, que les artistes s'intéressent à ce travail.
Il est arrivé à la science par la photo, William Henry Fox Talbot, ou c'est un photographe qui s'est intéressé à la science et à la nature?
Non, c'est surtout un scientifique. C'est un scientifique, mais qui qui utilise la photographie comme un outil. Mais en même temps, il y a une dimension
artistique. Oui.
D'ailleurs, il en est conscient puisqu'il appelle ses photographies les photogenic drawings. Et donc, c'est aussi révélé pour lui la beauté. Enfin, je crois que la beauté de la nature et le point de départ, c'est la botanique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, comme il n'arrive pas à dessiner une fougère, il va en faire l'empreinte avec des sels d'argent et il va voir la révélation. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est de pouvoir, communiquer avec les sociétés savantes de l'époque et ses confrères, dont l'idée de la reproduction. De la photographie, etc.
Donc, des manuels scientifiques.
Alors, il a créé le premier catalogue de photographie au monde, et qui s'appelle le crayon de la nature. Et donc, dans l'exposition, il y a un artiste anglais, Matt Collishaw, qui montre l'exposition donc de 1839 en réalité virtuelle. Donc, le public a la possibilité de visiter l'exposition telle qu'elle était en 1839. Alors, ce qui est très important aussi de dire sur cette période photographique qui m'a beaucoup intéressée, c'est aussi le fait que la photographie annonce, une révolution. En 1839, on est en pleine révolution industrielle. Et c'est vraiment le support artistique de la modernité, puisque ça commence à témoigner de tout ça. Et donc, lorsqu'a eu lieu la première exposition photographique en 1839, l'exposition a été chahutée par les chartistes qui étaient les premiers, les premiers partis ouvriers anglais. Et donc, il y a comme une sorte aussi de contemporanéité par rapport à ce qu'on vit.
Pourquoi ça a été chahuté ?
Pourquoi ils étaient chahutés ? Alors, chahutés parce qu'ils manifestaient contre la mécanisation des entreprises. Et j'ai vraiment voulu que la pièce de Matt Collishaw soit le point de départ, parce que de montrer que les processus techniques sont aussi des processus mentaux, et c'est-à-dire que là, il y a un parallèle entre une révolution technologique que l'on vit dans les nouveaux médias, puisque la pièce est en réalité virtuelle, et l'artiste, pour nous parler de ça, vient à l'origine de l'image et la photographie. Voilà, il y a une sorte d'aller-retour. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos.
Oh, mais tout à fait, on va continuer d'ailleurs la déambulation, dans la pénombre d'ailleurs, de l'expo, en compagnie de Corinne Amar, et on va faire une halte devant les photos d'une des artistes exposées dans ce laboratoire de la nature. Il s'agit d'Anaïs Boudot.
Ce sont des images issues d'une série plus grande que j'ai commencé à Madrid, en résidence à la Casa de Velázquez. La série s'intitule La Noche Oscura. Et donc j'ai décidé de travailler à partir des textes mystiques de la poésie du XVe siècle, en particulier Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Dans cette série, on est surtout en Castille, les paysages de Castille qui reviennent beaucoup. Par exemple, sur ces images, on voit un arbre en contre-jour et puis à côté, une racine un peu noueuse, un peu tortueuse. Ces images sont tirées sur verre et rehaussées de peinture dorée. Donc il y a peut-être un rapport aussi à la peinture religieuse. Elles sont un peu comme des petites icônes et elles ont une préciosité. En fait, ce sont des pièces uniques, faites à la main, donc qui révèlent aussi des accidents de la technique. J'ai un travail qui passe encore beaucoup par le laboratoire et l'argentique. Et je fais beaucoup d'allers-retours entre les techniques. Mais ce moment au laboratoire est très important dans ma pratique, justement parce qu'elle amène des choses inattendues, parfois des accidents. Pour le coup, ce sont des tâches, des imperfections qui sont dues au travail de la main, que j'intègre, que j'assume dans ma pratique en tout cas. C'était une invitation de Pascal Pronier, qui, en voyant justement mes images d'arbres, était en train de travailler sur Henry Fox Talbot, et qui est un photographe qui m'inspire beaucoup, enfin, comme tout le début de la photographie. Et donc j'ai trouvé cette proposition enthousiasmante, pour cette raison. Et donc,
Anaïs Boudot, donc proposition très enthousiasmante, et pourtant cette exposition, elle se déroule dans la pénombre. Des fois, on est inquiété. Qu'est-ce qui est exposé au Frénois dans cette exposition, le laboratoire de la nature, qui va jusqu'au 21 avril, je vous le rappelle? Eh ben, des photos, des films, des livres anciens, dans un du botaniste Buffon qui date du 19e siècle, des documents, des animaux empaillés, des canaris vivants. Alors, comment vous avez conçu cette exposition avec le musée de l'histoire naturelle? Pourquoi elle est scénarisée de cette manière?
Alors effectivement, c'était un dialogue à trois entre Judith Bergamin, qui est la directrice donc du musée d'histoire naturelle de Lille, qui a une collection méconnue et fantastique, et puis Christophe Boulanger, qui était le scénographe.
Et vous-même, Pascal Prunier, je vous rappelle, vous êtes commissaire de cette expo.
Absolument. Et ce qui était effectivement important, quand on pense à la photographie, on passe effectivement de l'invisible au visible. Et donc, pour effectivement peut-être concentrer le regard, on a besoin de cette obscurité. Et voilà, et pour effectivement ce passage du 19e au 21e siècle. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce parti pris d'être dans l'obscurité, pour aussi être dans un autre espace-temps. Et puis c'est aussi une particularité du Frénois, où la dimension de la projection est très importante dans nos expositions. Donc on est effectivement souvent dans le noir, parce qu'on est un lieu autour de l'art contemporain et du cinéma, entre autres.
Je parlais de dramaturgie, parce qu'il y a quand même tout ce sujet qui est très présent dans cette exposition, c'est-à-dire ces oiseaux disparus, ces espèces animales disparues en voie de disparition. C'est d'ailleurs l'objet de votre travail, Anna Katharina Scheidegger. Bonjour.
Bonjour.
Parce que vous parlez de la disparition et de la fonte des glaces.
Oui, exact. C'est le point de départ de mon travail, la disparition des glaciers en Suisse.
Vous êtes suisse, c'est vrai. Moi, c'est bon de le rappeler.
Moi, je suis suisse allemande, ouais. Et il y a pire. Et
je sais pas ce que vous voulez dire par là.
Donc, j'ai commencé à travailler autour de ces thématiques à travers d'une série photographique des glaciers qui sont couverts avec des bâches pour les protéger du soleil pendant l'été. Ce qui donne visuellement, on pense à des installations de cristaux ou à des petits pansements sur une nature qui est malade et qu'on n'arrive peut-être plus à sauver.
Et vous utilisez même votre image?
Oui, j'utilise mon image parce que autour de ça, en fait, il y a des performances, il y a un film que j'ai réalisé ou qui est en cours de finalisation. Il y a des histoires en Suisse, des contes qu'on raconte aux enfants qui disent que les êtres humains n'ont pas bien traité la nature. Après la mort, ils sont pris par le glacier comme punition. Donc c'est les pauvres âmes qui sont dans le glacier, maintenant le glacier est le fond. Donc on se retrouve avec tous ces esprits qui sont sur le paysage.
Sauf que c'est vous, Anna Katharina Scheidegger, qui êtes bloquée, emprisonnée dans ces glaciers. Ce qui fait un drôle d'effet.
Oui, je vais vous expliquer. J'ai cherché une façon de représenter ces pauvres âmes. Et j'ai fait mon corps en glace. Donc j'ai fait un moule de mon corps que je mets dans le congélateur, et donc j'ai mon buste en glace. Et pour revenir à votre question, ou à ce que finalement à ce que je montre dans l'exposition, c'est des têtes en glace, mais ils sont remplis avec des fleurs. Et là, effectivement, ça revient à une histoire très personnelle, parce que j'ai eu un accident et j'étais très très défigurée. Donc en quelque sorte, j'ai frisé la mort, mais je suis revenue, j'ai survécu. Donc ces têtes en glace, c'est quelque chose qui montre la disparition, mais ça montre aussi quand quelque chose est perdu, ça donne une place où quelque chose de nouveau peut surgir, une sorte de renaissance.
Comment vous avez discuté avec les artistes que vous avez choisis, Pascal Prunier? Parce que vous parliez en début de ce réveil culturel du regard occidental sur la nature, mais en réalité les artistes viennent d'horizons et de pays divers.
Alors là, c'était d'un point de vue historique, c'est-à-dire puisque effectivement on montre ce qu'on ne montre jamais dans un musée d'histoire naturelle, c'est-à-dire on montre comment un naturaliste travaille, c'est-à-dire tout le processus de prélèvement des animaux, etc. Donc ça, c'est cet aspect effectivement historique. En ce qui concerne les artistes, C'est une histoire différente avec chaque artiste. C'est-à-dire, c'est pas du tout un regard occidental. Donc, quand on conçoit une exposition, c'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire, on imagine très bien tel artiste par rapport à tel artiste, etc. Et effectivement, dans Anna, il y a une dimension dont elle ne parle pas, qui est toute la dimension poétique dans de ce travail. Et donc, effectivement, on le fait dialoguer avec Hicham Berada, hein, qui est marocain
et parle du jasmin de nuit, meskelil en arabe. Oui. Qui est d'ailleurs, c'est un très beau sujet, hein, que ce jasmin qui lâche ses odeurs que la nuit.
Voilà. Et puis, de façon sous-jacente, n'oublions pas que Talbot était un grand botaniste. Donc il y a l'histoire de l'empreinte de la fleur, là il y a l'empreinte, enfin il y a l'empreinte dans la tête, dans les têtes, dans les représentations. Et puis effectivement Hicham qui lui intervient aussi comme l'homme intervient sur la nature, sur les glaciers, comme en parlait Anna. Et Hicham lui nous redonne effectivement les mesquilles, qui sont les muscles de la nuit et qui ne fleurissent que à la lumière de la nuit et de la lune.
Tout cela va.
Donc c'est on est dans un parcours et une rêverie, hein, dans cette exposition. Vous avez compris, c'est-à-dire il y a à la fois une approche historique,
une autre approche qui est complètement scientifique.
Voilà.
Mais
il y a aussi une approche sensible.
Voilà. Et on peut même parler d'une approche poétique. On en parle dans un instant avec vous, bien entendu. Merci d'être venu, Pascal Prunier.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec ce matin une exposition qui a lieu au Frénois jusqu'au 21 avril, le laboratoire de la nature, une expo qui mêle art et science, qui rend hommage à un des pionniers de la photo, Henry Fox Talbot, qui était scientifique. Et nous disions qu'il y avait une autre dimension, c'est la dimension poétique de cette exposition, une expo avec 11 artistes participants qui rendent aussi bien hommage à Henry Fox Talbot qu'autre chose, parce qu'on leur avait aussi demandé de porter un regard sur la nature d'aujourd'hui. Pascal Prunier.
Oui. Alors, la dimension poétique, elle s'inscrit dans un cycle. Hein. Je veux dire, j'ai cette exposition et la troisième exposition. La première exposition s'appelait Poétique des sciences. Et donc, j'avais été inspirée par Bachelard, les textes de Bachelard.
Et là, on est accueilli par Baudelaire.
Absolument.
Pour la photo.
Tout à fait. Bah oui, qui est effectivement. Mais en même temps, vous savez ce que disait Baudelaire. Baudelaire détestait la photographie parce qu'il disait effectivement que si on mettait de l'âme, on dévoyait effectivement le support de la photographie et que la photographie devait être là pour témoigner. Donc c'est pas tout à fait. C'est pas la partie, on peut dire, romantique de Baudelaire lorsqu'il s'exprime par rapport à la photographie.
Mais alors, pourquoi commencer cette exposition par cette citation de Charles Baudelaire ?
Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a la mise en valeur d'une démarche scientifique au départ, et puis effectivement, cette citation est au début de l'exposition, et ensuite, on découvre. Tous les objets effectivement qui sont présentés du musée d'histoire naturelle, et là on est effectivement pas dans une approche vraiment romantique, et au contraire on est dans une approche puisqu'on découvre des animaux qui existaient au 19e siècle dans la métropole lilloise
et qui ont totalement disparu.
Donc moi je souhaitais un peu aussi marquer les esprits sur la disparition, effectivement la grande disparition qui n'a pas commencé ces dernières décennies, mais qui est en route depuis la révolution industrielle, quoi, du 19e siècle.
Qui s'accentue ou qui s'accélère, d'après vous, c'est ça?
Oui, et puis on a fait le choix des oiseaux dans l'exposition, aussi parce que c'est effectivement au niveau des espèces, avec les insectes, les espèces qui disparaissent le plus vite de notre planète. Donc on a fait ce choix. Et effectivement, lorsqu'on voit des grands outardes, on voit des pigargues, on voit effectivement un certain nombre de rapaces, c'est difficile pour les Lillois aujourd'hui d'imaginer que ces oiseaux étaient dans nos ciels au 19e siècle.
Dans cette atmosphère où quand même il y a ce danger permanent, il y a cette alerte très présente pour nous rappeler que plusieurs animaux ont disparu, d'autres espèces animales sont en voie de disparition et que nous sommes nous-mêmes concernés, comment laisser exprimer la poésie Anna Katharina Scheidegger?
Ce qu'on voit sur mes images, on voit la mort. C'est des têtes, c'est des yeux fermés, c'est figé, c'est la glace.
Mais c'est la mort, c'est effectivement
ouais, malgré
présent.
Tout ça, il y a quelque chose qui résiste, qui est, si vous voulez, à l'intérieur de la tête. C'est un symbole de la pensée, de la tendresse, un signe d'espoir.
Et vous tenez à mettre ce signe d'espoir, par exemple, est-ce que vos œuvres doivent être, quel que soit le message qu'elles sont censées véhiculer, si tant est que vous mettez à chaque fois un message, est-ce qu'elles doivent être belles, comme on dit?
Absolument. Absolument. Parce que je pense, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous reste. Et tout ce travail tourne autour de ça. On peut avoir une vision du monde qui est complètement scientifique, purement analytique. On ne survit pas. Moi, je pense, les êtres humains, on a profondément besoin d'un petit mystère ou d'un espoir ou d'une petite fleur dans la tête.
Est-ce que vous saviez avec quels autres artistes vous alliez être présente dans cette exposition? Anna Katharina Scheidegger, ou c'est un ensemble que vous avez vous-même réuni, Pascal Prognier? Est-ce que vous avez travaillé avec les autres artistes ou pas?
On a eu un dialogue, évidemment, puisque, je veux dire, Anna Katharina, et effectivement, on se connaît depuis très longtemps, puisque tu étais étudiante au Fresnois en 2014. On parle beaucoup d'images revenantes dans l'exposition, mais je peux dire qu'au Fresnois, les artistes avec, pour la plupart qui sont dans cette exposition, on en a 5 sur 11 qui sont des jeunes artistes qui ont fait leur formation au Fresnois. Donc c'est effectivement obligatoirement un dialogue permanent que l'on continue à avoir avec ces artistes.
Et ça veut dire quoi faire une formation au Fresnois?
Alors c'est effectivement une école un peu singulière, hein, puisque on a 48 jeunes artistes qui sont, donc c'est un troisième cycle, et maintenant il y a un doctorat, et qui sont en formation pendant 2 ans, et qui viennent expérimenter avec les outils de l'image et du son.
Donc voilà. C'est autour de l'image et du son. Qu'est-ce qui vous a attiré au Fresnois, Anna Katharina Scheidegger, pour terminer cette émission?
Je pense que c'est la diversité des mots d'expression. Donc au Frénois, quand j'étais étudiante, effectivement ça date, j'ai fini en 2005. J'ai fait de la photo très expérimentale en sténopée, je faisais un film 35 en bon titre, et en deuxième année, ça touche à des nouvelles technologies, c'était une installation interactive. Donc c'est extrêmement riche comme formation. Et la deuxième chose qui est exceptionnelle, ou qui était exceptionnelle pour moi, c'est la rencontre d'une part des autres artistes, mais aussi des artistes invités, professeurs, que j'ai rencontrés, et certains d'entre eux sont devenus des amis très proches.
Le Laboratoire de la Nature, l'exposition dure jusqu'au 21 avril, c'est au Frénois bien sûr. Merci à Anna-Katharina Scheidegger et à Pascal Prenier d'avoir accepté notre invitation pour venir à Paris nous en parler.